Chapitre 12. Tony s'apprêtait à sortir lorsqu'elle tomba nez à nez avec Alice Peterson. « Vous devez m'accompagner au commissariat, » dit l'inspectrice. « Montez dans la voiture. »« Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Tony. « Vous le saurez quand on arrivera, » se borna à répondre Alice. « Je croyais qu'il n'y avait qu'à la télé que les flics refusaient de répondre aux questions. Est-ce que Agatha et tous mes collègues de l'agence vont bien ?»«
Oui. » »«
Et James et Charles ?»«
Oui. »
Tony se fit un sang d'encre, jusqu'à ce qu'elle se retrouve enfin dans une salle d'interrogatoire face à Wilkes, Bill Wong et un agent qui montait la garde à la porte. Wilkes lança l'enregistrement puis attaqua.
Simon Black est en soins intensifs à l'hôpital.
Qu'est-ce qui lui est arrivé?
Il était employé par l'agence de détectives Mixden. Nous avons obtenu un mandat de perquisition pour fouiller son appartement et là, sur son ordinateur, nous avons trouvé un rapport détaillé sur tout ce que vous lui aviez confié à propos de la théorie de Mrs. Raisin, comme quoi l'assassin était peut-être un policier. Le rapport était prêt à être envoyé à Mixden.
J'ai postulé chez lui une fois, dit Tony. Mais il voulait que j'espionne ce qui se passait à l'agence d'Agatha. Oh non, qu'est-ce que Simon a fabriqué? Est-ce que ses jours sont en danger? Il a reçu une balle?
Non, il a été poignardé à la fête foraine et laissé pour mort dans la maison hantée. S'il n'avait pas basculé sur un couple, il serait mort à l'heure qu'il est. Il a perdu beaucoup de sang, mais la lame du couteau semble avoir épargné les organes vitaux. Nous attendons qu'il revienne à lui.
Il m'a dit qu'il était au chômage, fit Tony, les yeux noyés de larmes. J'ai été stupide.
Au cours de votre discussion, a-t-il nommé quelqu'un qu'il soupçonnait en particulier?
Non, je leur ai dit à Agatha.
L'interrogatoire se poursuivit. Bill avait pitié de Tony. Wilkes l'accusait quasiment d'avoir une liaison avec Simon. Il se demandait souvent comment la jolie Tony arrivait à conserver son air d'innocence avec le métier qu'elle faisait et tout ce dont elle avait été témoin. Il se demandait si elle était encore vierge. C'était peut-être encore possible en cette époque décadente.
On lut enfin sa déposition à la jeune femme et on lui demanda de la signer. Après son départ, Bill risqua.
Vous avez été un peu dur avec elle, monsieur l'inspecteur principal.
J'en ai ras-le-bol qu'Agatha Raisin et ses employés perturbent le travail de la police.
Mais on dirait que l'intuition apparemment extravagante de Mrs. Raisin est en passe de se vérifier.
Qui était en vacances au moment où Chelsea s'est fait enlever à Las Vegas?
Seulement...
Quoi? Qu'est-ce qu'il y a?
Je pense que vous devriez écouter ça, répondit d'une voix pressante le policier posté à la porte qui venait de discuter avec quelqu'un à l'extérieur de la pièce.
Il y a un gars à l'accueil.
Ça a intérêt à valoir le coup,
lança Wilkes rageur. Lui comme Bill souffrait d'un manque de sommeil. Dans le hall d'accueil, Wilfred Butterfield vint au-devant d'eux et s'écria.
Dès que j'ai vu sa photo à la télé, j'ai su qu'il était de mon devoir de me faire connaître.
Vous voulez parler de Simon Black?
Oui, il est passé à notre hall d'exposition à Birmingham. Il a dit qu'il travaillait pour l'agence de détective Agatha Raisin. Il m'a montré sa carte.
Et vous êtes?
Wilfred Butterfield, vendeur de voitures chez Class Cars.
Suivez-nous, vous allez faire une déposition.
Dans la salle d'interrogatoire très récemment libérée par Tony, Wilfred débita son histoire, négligeant de faire la moindre allusion à l'argent que Simon lui avait donné.
Bien, pour qu'il n'y ait aucun doute là-dessus, enchaîna Wilkes lorsqu'il eut fini, l'homme que vous avez décrit à Simon était trapu et il avait l'accent écossais.
Oui.
Il n'y en a qu'un ici qui réponde à cette description,
songea Wilkes. Le brigadier Tulloch.
Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore?
Il quitta la pièce et revint, la mine plus sévère que jamais.
L'inspecteur Bill Wong va vous faire signer une déposition. Merci d'être venu à nous. Je vous prie de ne pas divulguer cette information à la presse.
Il ressortit, tandis que Wilfred se répandait en promesses. Le policier qui était préposé à l'accueil, la veille au soir, se présenta à lui. Wilkes l'écouta raconter son histoire. Simon avait demandé à parler à Bill Wong. On lui avait répondu qu'il était sorti, il avait dit qu'il allait attendre. Simon avait ensuite examiné les photos, avait pointé du doigt l'un des policiers, demandé s'il s'agissait bien d'Henry James. Le policier lui avait répondu que c'était le brigadier Tulloch et Simon avait renoncé à attendre. On se mit à rechercher Tulloch. Il s'avéra que c'était son jour de repos. Armés d'un mandat, Bill, Wilkes et Alice, accompagnés d'un groupe d'agents, firent une descente à l'appartement du brigadier. Personne ne vint ouvrir. Wilkes hocha la tête, puis s'écarta pendant qu'on enfonçait la porte. Le petit appartement était vide.
Wilkes lança un appel pour faire surveiller tous les aéroports et toutes les gares en diffusant le numéro de plaque d'immatriculation de la moto de Tulloch. Puis, il attendit dans sa voiture qu'une équipe de la scientifique vienne inspecter le logement. En sortant du commissariat, Tony fila à l'hôpital où elle trouva Agatha dans la salle d'attente. L'oncle et la tante de Simon étaient assis un peu plus loin.
« Je suis désolée, Agatha, » chuchota la jeune femme.
« J'ai déjà subi un interrogatoire de la police à l'aube, » dit Agatha en haussant les épaules.
« Simon était donc prêt à nous espionner pour le compte de Bigsden ?»
Bref, ce qu'il a découvert a failli le faire tuer. Quel gâchis, un jeune homme si brillant.
« Ne vous reprochez rien, Tony, il aurait réussi à me duper aussi, celui-là. Ah, voilà le chirurgien. »
Elles attendirent, mortes d'inquiétude, puis elles virent des sourires de soulagement apparaître sur les visages de l'oncle et de la tante de Simon. Wilkes et un autre enquêteur qu'elles ne reconnurent pas arrivèrent.
« Vous deux, pas la peine d'attendre, » lança l'inspecteur. « Famille et police seulement. »
« Je sais, » fit Agatha. « On va appeler Patrick, je parie qu'il aura appris quelque chose. »
Elles allèrent s'installer à la terrasse d'un café de l'autre côté de la rue. Agatha leur commanda des cafés, alluma une cigarette et téléphona à Patrick pendant que Tony attendait avec impatience.
Le coupable serait un certain brigadier Billy Tulloch. Soit il travaillait avec Beach, soit il a pris le relais après lui. En tout cas, il bossait pour quelqu'un ou pour un gang. J'ai horreur d'être tenu à l'écart de l'affaire. Nous ne pouvons qu'attendre. Pour une raison qui m'échappe, Simon s'est rendu chez un vendeur de voitures de Birmingham, où il a découvert qu'un homme répondant à la description de Tulloch était venu se renseigner sur des voitures de luxe. À ce que dit Patrick, les locaux de Stikoff ont été passés au peigne fin, ainsi que tous ses camions. On ne peut plus rien faire aujourd'hui et j'ai besoin de dormir.
Vous devriez loger chez moi ce soir, Tony. Ma maison est bien protégée. »
La jeune femme n'hésita pas longtemps. Elle pensa au pauvre Simon, laissé pour mort d'une horrible manière.
« Oui, merci. Je passe chez moi prendre quelques affaires. »
Tony fut soulagé de trouver Charles qui attendait dans sa voiture devant le cottage de sa patronne. Elle redoutait de faire une overdose d'Agatha. Autour d'un café, Charles écouta les derniers développements de l'affaire.
« Je me demande ce qui a conduit Simon chez ce vendeur de voitures, » dit-il. « Vous croyez que Mixden en sait plus qu'il ne devrait ?»«
Je pense que Simon a une intuition soudaine, » répondit Tony. « Il a sans doute essayé de deviner comment un flic qui a beaucoup d'argent et qui ne peut pas l'étaler le dépenserait. »
Selon Patrick, Tulloch n'avait pas de vacances à prendre, seulement quelques jours de congé. C'est sans doute pour ça qu'il est allé à Las Vegas.
Nous nous sommes concentrés sur Stikoff, parce que son père est bulgare, fit remarquer Agatha. Mais quelle autre entreprise envoie des camions à l'étranger?
Richards! S'exclama Tony.
Il vend des vestes en cuir bon marché. Il n'est pas obligé de se les être procurés auprès de Stikoff. Je suis sûr que ces camions vont aussi à l'étranger pour chercher des fruits et des légumes. Dans la presse locale, il y a toujours des protestations contre les supermarchés qui vendent des denrées importées au lieu de s'intéresser aux produits du pays.
Un coup de sonnette retentit.
« J'y vais, »
fit Charles. Il regarda par le judas.
« C'est Wilkes. »«
Fais-le entrer, » grommela Agatha.
« Qu'est-ce qui s'est passé cette fois ?»
Wilkes, cependant, n'apportait pas de nouvelles. Il était venu leur faire un petit sermon. Il croyait en une procédure policière sérieuse et il avait le sentiment que les intuitions extravagantes d'Agatha et de Simon semaient la zizanie dans l'enquête. En vain, Agatha lui fit remarquer que, sans Simon, la police n'aurait jamais découvert la vérité sur Tulloch. Elle se vit rétorquer qu'à partir de maintenant, elle et ses employés devaient rigoureusement laisser faire la police.
« On aurait dû lui dire qu'on soupçonnait Richards, » regretta Tony après son départ.
« Je vais vous dire un truc, » s'emporta Agatha. « J'en ai marre que ce connard sentencieux me traite comme une collégienne. Il va voir ce qu'il va voir. »«
C'est-à-dire ?»
s'enquit Charles.
« On va tous aller se coucher. On va tous bien se reposer et après, on suivra un des camions de Richards pour voir où il va. »«
Je vais voir si James est chez lui, » dit Charles. « Les actes de bravoure, c'est plus son rayon que le mien. »
Mais Charles ne tarda pas à rentrer bredouille.
« Bon, j'imagine que je vais vous accompagner, » dit-il réticent. « À ta place, Agatha, j'appellerai Doris pour lui demander de venir chercher les chats. »
« Pourquoi ça ?»
« Parce que ton projet est dangereux. Une personne qui a été capable d'engager un psychopathe comme Tulloch pourrait bien faire tout ce qui est en son pouvoir pour que tu ne restes pas en vie. »
ils décidèrent de suivre un camion pendant la journée à un moment où il y aurait beaucoup de circulation. Charles, étant enclin à acheter des voitures d'occasion les moins chères qu'ils puissent trouver, ils utilisèrent la Mercedes dont Agatha avait récemment fait l'acquisition. Charles au volant, ils attendirent devant le supermarché Richards que l'un de ces gros camions s'en aille.
S'il fait le tour des fermes du coin pour collecter du lait et autres, on aura perdu notre journée,
commenta-t-il. Mais le camion fila vers le sud sans s'arrêter.
Il prend la route de Douvres, s'écria Agatha tout excitée. S'il prend le ferry, on fera mieux de rester dans la voiture.
Mais avant d'arriver à Douvres, le poids lourd quitta la nationale.
La circulation est moins dense ici, fit remarquer Charles. Il vaut mieux que je me laisse un peu distancer. On est en rase campagne. Regardez, il s'arrête sur une aire de stationnement. Je vais le dépasser, m'arrêter plus loin, puis on reviendra à pied essayer de découvrir ce qui se manigance.
Il continua à rouler, puis se gara sur un chemin de ferme sous un bosquet.
Il y avait une haie en face de l'aire de stationnement, dit-il. Si on accède au champ qui est en face et qu'on revient sur nos pas, on devrait pouvoir observer ce qui se passe.
Ils furent bientôt blottis derrière la haie. Plusieurs hommes, des gros durs, étaient descendus du camion et s'étaient assis sur le bord de la route pour boire du café dans des thermos et manger des sandwichs. L'estomac d'Agatha gargouilla tellement fort qu'elle eut peur qu'ils l'entendent. La journée traîna en longueur. À un moment, le chauffeur du camion remonta dans la cabine, mais au lieu de démarrer, il s'installa pour dormir. Les autres montèrent à l'arrière du véhicule, puis tout devint silencieux.
« Il doit se passer quelque chose !» chuchota Tony. « C'est vrai, qu'est-ce qu'ils attendent ?»
Enfin, le soleil déclina lentement dans le ciel. Charles dormait, Tony avait les paupières lourdes. Seule Agatha, piquée au vif par le sermon de Wilkes, gardait les yeux rivés sur le poids lourd. Au bout d'un moment, elle réveilla Charles d'un coup de coude.
« J'entends une voiture !»
chuchota-t-elle.
« Non, ne te lève pas !»
Des phares fendirent la nuit. Une voiture s'arrêta. Un homme en sortit, puis cogna contre les portes du camion.
« Qui est-ce ? »
demanda Tony. L'homme avança dans la lumière de ses phares.
« C'est Richards !»
répondit Agatha avec excitation. Tom Richards s'entretint avec le chauffeur. Le camion s'éloigna lentement, suivi par Richards dans sa voiture.
« Laissons-les s'éloigner. On essaiera de les rattraper !» suggéra Charles. « Il faut que je conduise sans allumer les phares pour ne pas être repéré. »
Alors qu'ils reprenaient à leur tour la route, aussi lentement et silencieusement que possible, Agatha s'impatienta.
« Tu ne peux pas accélérer, il pourrait être n'importe où !»«
Il pourrait aussi s'arrêter brusquement et entendre notre moteur !»
la raisonna Charles.
« Regardez, je vois leur phare au loin, ils ont pris cette petite route. Je vais les suivre aussi loin que j'oserai. »
Une vaste grange surgit sur le fond du ciel nocturne. Le camion et la voiture de Richards s'arrêtèrent devant.
Agatha, fit Charles, avant qu'on aille plus loin, tu ne crois pas que ce serait une bonne idée d'appeler la police? Ces types sont des assassins impitoyables, des psychopathes. Rappelle-toi ce qu'ils ont fait à Beach.
Juste un coup d'œil, implora Agatha, et on téléphone s'il y a quoi que ce soit.
Ils sortirent de voiture et se dirigèrent sans un bruit vers la grange.
Tout à coup, Agatha se figea.
Faut que je fasse pipi.
Alors fais pipi et rejoins-nous, répliqua Charles avec humeur.
« Tu n'aurais pas pu y aller pendant tout le temps qu'on a attendu derrière cette foutue haie. Allez, vas-y »
« Attendez-moi »
supplia-t-elle.
« J'en ai marre. Je jette un coup d'œil et après, on file !»
Charles et Tony continuèrent à avancer sans bruit en rampant dans l'herbe. De la lumière se déversait à flot des portes ouvertes de la grange. Charles réussit à voir l'intérieur du bâtiment.
« Un labo !» chuchota-t-il. « Ils doivent fabriquer de la drogue !»
C'est alors qu'on les empoigna, lui et Tony. La jeune femme poussa un hurlement. Agatha remonta précipitamment sa culotte, fit demi-tour et courut vers la voiture. Affolée, elle appela la police en bredouillant des informations.
« Comment est-ce que vous nous avez trouvés ?»
demandait Richards à Charles et Tony, que trois hommes retenaient prisonniers.
« Vous ne voulez pas répondre, hein ? Boris, apporte la lampe à acétylène et brûle-moi ce joli petit minois, ça la fera parler. »
« C'était mon idée !» mentit Charles. « La police n'est pas au courant. »«
Eh bien, vous allez voir ce qui arrive au fouineur. Vas-y, grille-lui la figure, Boris !»
Charles essaya de se libérer, mais on le retenait fermement. Boris approcha avec la lampe.
« Il y a quelqu'un qui arrive !»
cria Richards.
Agatha Raisin, penchée sur le volant de sa Mercedes, fonça droit dans la grange et dans Boris. Produits chimiques, bocaux en verre et cornus volèrent tous azimuts. Elle donna un coup de volant et, en faisant rugir le moteur, fonça sur Richards qui s'écarta d'un bond, non sans qu'elle l'ait préalablement heurté et lui eût brisé la jambe.
« Abattez-la !» cria-t-il.
Des flammes commençaient à jaillir tout autour. Les hommes de Richards sortaient en courant en direction du camion. Charles et Tony sautèrent en voiture. Agatha fit marche arrière illico, mais le camion démarrait déjà.
« Il faut sortir Richards de là !» cria Charles.
Agatha s'arrêta. Charles retourna dans la grange au pas de course, tira Richards qui hurlait de douleur de la fournaise et le roula dans l'herbe jusqu'à ce que les flammes qui embrasaient ses vêtements soient éteintes. Tout à coup, un hélicoptère surgit au-dessus d'eux et des sirènes de police se firent entendre au loin. Richards s'était évanoui. Agatha et Tony le rejoignirent. La jeune femme s'assit dans l'herbe et cacha sa tête entre ses genoux.
« Ils allaient lui brûler la figure, Agatha !» expliqua Charles.
Agatha resta assise, le visage blême, les yeux fixés sur Tony. Maudite soit sa vanité qui avait failli conduire son employé à une mort affreuse. Tout à coup, ils furent cernés par des voitures de police, des ambulances et des fourgons d'incendie. Une ambulance emporta Richards sous bonne garde. Son gang avait été arrêté. Malgré l'insistance d'Agatha, Tony refusa qu'on la conduise à l'hôpital. On les convoya jusqu'au commissariat de Douvres, où ils furent interrogés avant d'être transférés dans une maison sécurisée, avec la perspective de nouveaux interrogatoires le lendemain matin. Heureusement, il y avait dans la maison en question des vêtements de nuit et d'autres de rechange. Ils se blottirent les uns contre les autres sur le canapé du petit séjour. Puis Charles se rendit à la cuisine et en revint avec une bouteille de whisky.
« Regardez ce que j'ai trouvé !»«
Tony a besoin d'un thé chaud et sucré !» le morigéna Agatha.
« Tony a besoin de se saouler !»
intervint Tony d'une voix lasse. Au bout d'un moment, Agatha dit enfin « C'était donc une affaire de drogue !»«
Et sans doute aussi de vol de matériel agricole et de voiture !»
la corrigea Charles. « Tullock n'était pas là. Je ne supporte pas l'idée que ce psychopathe soit toujours dans la nature !»
Tony eut un frisson et Agatha ajouta précipitamment «
Ils s'en sont certainement débarrassés. Une fois grillés, ils devenaient inutiles. Allons nous coucher. » Pendant la nuit, Agatha se réveilla et trouva Charles dans son lit.
« Qu'est-ce que... » « Tais-toi et dors. »
Il l'enlaça. Elle se laissa de nouveau gagner par le sommeil, un sommeil hanté par des cauchemars et par la vision de la belle Tony défigurée. Au matin, l'agent qui montait la garde devant la porte toqua pour leur demander s'ils voulaient petit déjeuner.
« On ferait mieux de manger quelque chose, » dit Agatha.
« Il y a un McDo à côté. »«
Il n'a rien de mieux à proposer, » grommela Agatha.
« C'est très bien, le McDo, » affirma Charles. « Je crève de faim. »
Ils avaient tout juste fini de manger lorsqu'on les informa qu'on allait les reconduire sous escorte à Merceuster.
« Encore des interrogatoires, » gémit Agatha.
« Et ma voiture ?»«
Il va falloir contacter votre assurance. La grange s'est en partie effondrée dessus dans l'incendie. Elle est bonne pour la casse. »
Agatha, Charles et Tony furent interrogés séparément. La jeune femme eut affaire à Bill Wong et Alice Peterson, et comme ils se montrèrent très doux avec elle, elle éprouva un certain réconfort en racontant une fois de plus toute son histoire.
Il faut vraiment que tu ailles consulter l'association d'aide aux victimes, lui conseilla Bill quand elle eut signé sa déposition.
Je vais bien maintenant, assura-t-elle.
Je pense quand même que vous souffrez d'un choc à retardement, dit Alice. Laissez-moi vous prendre un rendez-vous.
Bon, d'accord, céda Tony, qui aurait accepté n'importe quoi pour pouvoir sortir du commissariat et regagner son petit appartement.
Agatha et Charles se retrouvèrent à l'accueil.
J'ai besoin d'une douche et d'un bon récurage, dit Agatha.
Apparemment, Tony est rentré chez elle. Tu crois qu'il faut qu'on passe la chercher?
Non, je pense qu'elle aura envie de rester un peu seule, répondit Charles.
Je n'ai rien réussi à tirer d'eux. Est-ce qu'ils ont retrouvé Tullock?
Wilkes m'a dit qu'ils étaient encore à sa recherche. Ça ne me plaît pas. Imagine si ce psychopathe décide de se venger sur l'un de nous.
Moi, à mon avis, ça fait belle lurette qu'il est parti,
la rassura Charles en réprimant un bâillement.
Il faudrait que j'appelle l'hôpital pour savoir comment s'en sort Simon. Je me demande si je ne devrais pas le réembaucher.
« Quoi? Tu es folle? Il t'espionnait pour le compte de Mixden. »
« Je sais, mais réfléchis un peu. Nous autres, amateurs, nous n'avons pas les mêmes ressources que la police.
Quel est le policier qui aurait eu assez d'imagination pour deviner ce que ferait un homme qui a du fric mais qui doit le cacher? Qui d'autre se serait douté qu'il aurait envie d'une belle bagnole?
Vois avec Tony ce qu'elle en pense.
Je ne vais pas m'en occuper tout de suite. Il faut que je joigne mon assurance et que je me fasse prêter un véhicule de remplacement. Est-ce qu'on demande aux flics de nous raccompagner?
J'en ai assez de les voir. Prenons plutôt un taxi.
Une fois chez Agatha, Charles annonça qu'il rentrait chez lui et reviendrait peut-être la voir plus tard. En le regardant s'éloigner, elle se sentit étrangement abandonnée, puis elle se secoua les puces. Charles était un feu follet, toujours de passage. On ne pouvait jamais compter sur lui. Sa femme de ménage lui ramena ses chats qu'il ignorait royalement et attendirent près de la porte du jardin qu'on les fasse sortir.
« Vous devriez installer une chatière, »
suggéra Doris. « Et si un intrus s'en servait pour se glisser chez moi ?»«
Personne ne sera assez maigrichon pour ça. »
« Et si quelqu'un poussait un cocktail Molotov à travers ?»«
On pourrait faire pareil à travers la boîte aux lettres. » »«
Vous êtes vachement drôle ce matin, » dit Agatha, et elle fondit en larmes. Très secouée, Doris la regarda, puis la serra dans ses bras.
« Je fais tout de suite venir Mrs. Bluxby. »
L'épouse du pasteur fut atterrée de voir Agatha dans cet état. En temps normal, elle était l'illustration parfaite du nouveau dicton selon lequel on était aussi jeune aujourd'hui à 50 ans qu'hier à 40. Mais ce matin, elle avait la mine défaite et le teint blême. Après une tasse de thé chaud et sucré, arrosée de whisky et deux cigarettes, Agatha commença à reprendre du poil de la bête.
« Je ne vous avais jamais vu en survêtement, » remarqua Mrs. Bluxby,
« fournie par la police dans la cachette à Douvres.
J'ai appris aux informations ce matin ce qui est arrivé. Bien sûr, peu de choses a été divulguées à cause de la procédure judiciaire en cours. Racontez-moi tout. »
Mrs. Bluxby écouta, horrifiée, le récit d'Agatha.
« Où est Tony ?»
demanda-t-elle.
« Chez elle. » « Et ce Tullock est toujours en liberté ?» Je m'en vais immédiatement la chercher à Merceuster.
En arrivant chez lui, Charles fut informé par son domestique, Gustave, que Penny Dunstable l'attendait dans le salon. La dite Penny était l'un de ses anciens béguins. Gustave pensait secrètement que, s'il n'arrivait pas à caser son maître avec quelqu'un de convenable, cette fichue raisin finirait par s'installer chez lui. Penny se leva pour accueillir Charles. C'était une femme grande et élancée, au visage long, aux épaules carrées de chasseuse à cour et à l'épaisse chevelure châtaine. Charles se souvenait qu'elle avait été une amante pleine de fougue.
« J'en suis claquée, » dit-il. « Penny chérie, le jour est mal choisi pour une visite. Je vais me coucher. »«
Bonne idée, » répondit-elle d'une voix rauque.
« Faire l'amour, » songea Charles. « Encore et encore, pile ce qu'il me faut. »
Mais une vision du visage blême et triste d'Agatha, le regardant partir, surgit devant ses yeux. Maudite Agatha.
Désolée, ma belle, je suis vraiment naze. Une autre fois.
Il s'éloigna rapidement. Voyant que Gustave le suivait dans l'escalier, il fit volte-face.
Je peux me coucher tout seul, merci. C'est vous qui l'avez invité, non? J'ai rencontré Miss Dunstable au marché fermier et j'ai pensé que vous seriez content de la voir. Pas maintenant. Servez-lui un verre et débarrassez-vous d'elle.
Tony accepta docilement l'invitation de Mrs. Bluxby à venir passer la nuit au presbytère. L'épouse du pasteur lui prépara une petite valise.
Je suis censée recevoir un appel de l'association d'aide aux victimes, fit remarquer la jeune femme. Est-ce que vous avez donné votre numéro de portable à la police?
Oui.
Alors ils vous retrouveront. Avant de partir, dites-moi, est-ce que vous ne préféreriez pas être avec votre mère?
Elle a appelé, oui, mais elle vient de décrocher un nouveau travail. Je lui ai dit que ça irait et que je la verrais peut-être ce week-end.
Quand elles montèrent dans l'antique Maurice Minor de Mrs. Bluxby, l'épouse du pasteur lança un regard dans le rétroviseur avant de se mettre en route. Si seulement la police pouvait leur annoncer qu'on avait retrouvé Tullock. C'est avec un soupir de soulagement qu'elle s'engagea enfin sur la petite route bordée d'arbres qui menait à Carsley. Il n'y avait pas de voiture derrière elle. Au presbytère, elle invita Tony à s'installer dans le jardin. La jeune femme s'allongea dans un transat et sentit le soleil lui réchauffer la figure. Enveloppée par la tranquillité du jardin, elle ne tarda pas à s'endormir. Ce soir-là, Agatha colla le rabat de sa boîte aux lettres avec de la superglue. Elle savait que le facteur laisserait son courrier à l'épicerie du village.
Elle tenta de contacter Charles par téléphone, mais Gustave lui répondit qu'il n'était pas disponible. D'un autre côté, c'était ce qu'il répondait toujours. Elle monta sur le palier, regarda avec nostalgie le cottage de James, mais il n'y avait pas de lumière et la voiture de son ex-mari n'était pas garée dehors. Le tintement de la sonnette la fit sursauter. Elle descendit, colla un œil contre le judas et se retrouva face au visage de Bill Wong. Elle ouvrit la porte. « Entrez, alors il a été arrêté ?»«
Qui ça ?»«
Tulloch, bien sûr !»« On y travaille. On va peut-être bientôt réussir à faire parler un des membres du gang. L'un des hommes semble plus faible que les autres. On espère apprendre que Richards s'est débarrassé de Tulloch. L'enquête sera bientôt bouclée. » Imaginez, il était propriétaire d'une chaîne de supermarchés florissante, mais ça ne lui suffisait pas. Le labo de drogue était un nouveau projet. Tout était prêt pour y fabriquer du cristal meth, à ce que l'équipe de la scientifique a pu comprendre, d'après les restes calcinés.
Où est Tony ?
Chez Mrs. Bugsby.
C'était la meilleure chose à faire pour elle.
Elle aurait été en sécurité chez moi aussi, objecta Agatha, vexée comme un pou.
Espérons que vous n'êtes pas en danger, dit Bill, en lançant un regard au barreau de la fenêtre de la cuisine.
Agatha suivit son regard, puis déclara avec amertume. « Me voilà dans une sorte de prison, alors que Tulloch est peut-être encore dans la nature, libre comme l'air. »
« Et Fiona Richards, au fait, est-ce qu'elle était au courant de tout ça ?»
Elle le nie avec véhémence et beaucoup de larmes. « Tout ce qui la préoccupe, c'est ce qu'il va advenir de la vie confortable qu'elle menait jusqu'ici. »«
Est-ce vraiment Richards qui est à la tête du réseau ?»
Avant qu'il manifeste l'ambition d'entrer sur le marché de la drogue, son business consistait à piquer des voitures et du matériel agricole coûteux pour les expédier en Europe de l'Est. Parmi les hommes qu'on a pincés, il y avait deux Albanais, un Kurde, et je regrette d'avoir à le dire, deux habitants de Merceuster. Ces deux-là avaient déjà fait de la prison pour coups et blessures.
Le portable de Bill sonna et il sortit de la cuisine pour répondre. Il revint, la mine lugubre.
L'un des membres du gang a commencé à se mettre à table. D'après lui, Beach gagnait de l'argent en indiquant à Richards quelle moissonneuse-batteuse était laissée dans les champs et où trouver des voitures de luxe. Peut-être que le P sur son registre signifiait Porsche. Il regardait aussi Richards quand un membre du gang semblait attirer les soupçons et il égarait des preuves. Mais il trouvait qu'il n'était pas assez grassement payé. Alors il s'est mis à faire chanter le patron du supermarché. Lequel a ordonné à un homme du nom de Boris Hamid et à l'un des Anglais, Marty Gifford, de régler son compte à Beach d'une façon qui dissuaderait quiconque serait tenté de lui jouer le même tour. L'idée du cochon rôti revient à Boris. On a retrouvé les pieds et les bras manquants dans un congélateur à l'arrière du grand supermarché de Merceuster. Les employés ne risquaient-ils pas de tomber dessus? Le congélateur en question était cadenassé. Richards est un malade, un homme cruel. Les membres de son gang ne tarderont pas à se retourner contre lui quand ils apprendront qu'il va alléguer que ce sont eux qui l'ont obligé à faire leur sale besogne sous la menace.
Et Tulloch, quand est-il entré dans le tableau?
Peu après l'assassinat de Beach, je pense. C'est un joueur invétéré. Il devait de l'argent à un usurier qui en a parlé à Richards. Nous croyons qu'il s'est lui-même drogué devant votre cottage pour détourner les soupçons.
C'est lui qui a tué Amy Richards. Elle allait reprendre le chantage. Quant à savoir comment cette idiote a pu croire qu'elle allait s'en tirer comme ça, ça me dépasse.
Mais quels sont les antécédents de Tulloch ?
Il donnait l'impression d'un flic plutôt honnête, jusqu'à ce qu'on se mette à creuser. Sa femme a fait appel à nous un soir. Elle avait été battue, deux côtes cassées, puis elle a retiré sa plainte. Mais ça laissait tout de même un goût amer. Il a divorcé quelques mois plus tard. Avant Merceuster, il était affecté à Manchester. Or, avant son départ de cette ville, il y a eu une série d'assassinats violents, sadiques, de prostituées. Après son départ, plus rien. Ça fait réfléchir.
Cette nuit-là, Simon n'arrivait pas à dormir. Il se remettait vite physiquement, mais pas moralement. Il ne s'était jamais senti aussi abattu ni honteux de sa vie. Il était certain que l'armée ne s'était pas laissé duper par son pseudo-stress post-traumatique, mais avait préféré se débarrasser de lui à cause de la façon dont il avait agi avec Sue. Son oncle et sa tante savaient qu'il avait espionné pour le compte de Mixden et le regardaient tristement, comme s'il n'en revenait pas d'avoir recueilli un tel monstre. Un policier avait monté la garde à la porte de sa chambre, mais dès qu'on avait jugé qu'il avait recouvré assez de force pour quitter le service de soins intensifs, cette garde avait été supprimée. Le fait que sa famille n'ait pas cru bon de lui payer une chambre particulière l'avait affecté. Parfois, quand il était au plus bas,
il en arrivait à regretter de ne pas être mort. Et pourtant, c'était la peur de Tullock, revenant pour finir le boulot, qui le maintenait sur le qui-vive et lui avait fait refuser les somnifères. Les autres patients ne lui parlaient pas. Il en avait entendu un dire
« C'est sans doute un criminel ».
Au moins, il était content d'avoir retrouvé la force d'aller seul aux toilettes, sans devoir s'abaisser à appeler une infirmière pour demander le bassin. Il sortit des toilettes et marqua une hésitation. Il pourrait peut-être aller voir en cuisine s'il y avait quelque chose à manger. On lui avait servi une soupe et un sandwich à 6 heures du soir, et il savait qu'il ne pourrait compter sur rien d'autre à se mettre sous la dent avant le lendemain matin. L'infirmière de nuit n'était pas à son bureau. À côté de la salle, il trouva une petite cuisine où il se prépara un café et un sandwich au fromage. Comme il commençait à se sentir faiblard et flageolant, il ressortit avec précaution de la cuisine pour reprendre le chemin de son lit. Devant lui, il vit un homme qu'il prit pour un aide-soignant pousser un chariot de médicaments. L'aide-soignant s'arrêta devant la salle où se trouvait son lit, choisit une seringue et la remplit. Simon se mit à trembler de peur. Cette silhouette, solidement charpentée, ses cheveux blonds lui étaient horriblement familiers. Il recula d'abord lentement, puis courut jusqu'au bureau principal en criant « Appelez la police, c'est Tullock! Il veut m'assassiner !» L'hôpital fut rapidement cerné. Dans le chariot abandonné, on trouva une seringue remplie de cyanure. Bill Wong, tandis qu'il se précipitait à l'hôpital, se demanda quand il pourrait enfin avoir une bonne nuit de sommeil. Mais Tullock, et ce devait être lui, car qui d'autre aurait voulu tuer Simon, s'était volatilisé. Simon emménagea de nouveau dans une chambre particulière gardée par un policier. Tout à coup, la personnalité revêche d'Agatha Raisin lui manqua. Celle-ci fut réveillée par la sonnerie stridente du téléphone sur sa table de chevet. Elle consulta le réveil en plissant les yeux. « 3 heures du matin ?» Elle décrocha. « C'est moi, Simon !» chuchota la voix au bout du fil. « Ne raccrochez pas !»« Qu'est-ce que vous voulez, espèce de petit crapaud sournois ?»« Tullock est passé ici, à l'hôpital !» répondit Simon, avant de tout lui raconter et de conclure. « Il faut que je vous voie !»« On se demande pourquoi ?» rétorqua-t-elle d'un ton acerbe. « Écoutez, vous n'êtes plus en soins intensifs à ce que je comprends. Alors je viendrai dans la matinée, à l'heure des visites. » Elle dormit ensuite d'un sommeil agité. À chaque bruissement du chaume sur le toit, elle imaginait Tullock rampant là-haut. À chaque craquement des vieilles poutres, elle imaginait Tullock essayant de s'introduire chez elle. « Je n'ai jamais eu aussi peur aussi longtemps, » songea-t-elle tristement. « Oh, qu'on me rende ma vie assommante d'avant, avec les affaires d'ados disparus et de chats perdus. Je jure que je ne me plaindrai jamais. » Agatha prit son temps pour se rendre à l'hôpital. Elle alla même se faire coiffer chez Achille, à Evesham, avant de rendre visite à Simon. Quand il la vit apparaître dans l'embrasure de la porte restée ouverte, Simon cria au policier de garde de la laisser entrer.
« Contente de voir que vous avez l'air plus vigoureux, » bougonna Agatha.
« Mais maintenant, je peux vous le dire, vous êtes un sale petit sournois. »«
Je suis désolée. »
Avec ses épais cheveux ébouriffés, Simon avait l'air très jeune.
« La vérité, c'est que je suis terrorisée. Chaque fois qu'un docteur entre dans la pièce, je frémis. La nuit qui vient va être une horreur. »
« Comment en êtes-vous venu à la conclusion qu'un ripo essaierait de s'acheter une voiture de luxe ?» demanda Agatha.
« C'est le genre de truc que je me suis dit qu'il pourrait faire. » La plupart des mecs qui gagnent au loto, la première chose qu'ils veulent, c'est une voiture qui en jette.
Oh, les garçons et leurs joujoux, pensa Agatha.
Si seulement on pouvait le coincer, dit-elle, comme si elle se parlait à elle-même. C'est un psychopathe, un maboule.
J'ai le pressentiment atroce qu'il va recommencer. Agatha regarda Simon d'un air songeur. Elle en avait assez d'être traitée comme une amatrice empotée par la police, alors que sans elle, on n'aurait même pas trouvé le laboratoire de drogue.
« Je vois que vous avez un cabinet de toilette dans votre chambre, » constata-t-elle.
« Vous voulez y aller ?»«
Non, pas maintenant. » »«
Écoutez, voilà le topo. Tout ce dont Tullock a besoin pour s'en prendre de nouveau à vous, c'est d'enfiler une blouse blanche et d'avoir l'air d'un docteur. »«
Il y a un agent dehors. »«
Qu'est-ce que ça changera si Tullock se déguise un peu, qu'il chippe la tenue et le badge d'un médecin ? Il vous plante rapido une seringue dans le bras, et alors ce sera adieu Simon, bonjour le sadique !»«
Je regrette que vous soyez venu. »
Je croyais avoir eu la peur de ma vie, mais vous venez de prouver que ça peut être pire.
Écoutez,
Je reviendrai vers la fin des visites. Vous détournerez l'attention du flic de garde en l'appelant à la fenêtre, en prétendant que vous avez vu Tullock dans le parc de l'hôpital. Moi, je filerai dans les toilettes et j'y resterai toute la nuit pour monter la garde.
Agatha, Tullock est fort comme un bœuf. Vous n'arriverez jamais à le maîtriser, d'autant qu'il aura sans doute déjà réglé son compte au pauvre policier en faction.
Ne vous inquiétez pas pour ça.
Vous êtes dingue.
Alors restez ici à trembler comme une feuille. Ça m'est complètement égal.
Bon, d'accord, capitula Simon. Je ne serai jamais trop protégée.
De l'hôpital, Agatha se rendit à son bureau. Elle n'avait pas l'intention de faire part de ses projets ni à ses employés ni à Charles. Si quelqu'un devait courir un danger, ce serait elle.
Tony se reposait encore au presbytère. Elle donna à Phil et à Patrick quelques affaires à éclaircir, dicta du courrier à Mrs. Friedman, puis déclara qu'elle se sentait un peu flageolante et qu'elle rentrait chez elle se reposer. Juste avant la fin des heures de visite, elle arriva à l'hôpital avec un grand sac contenant deux thermos de café et un paquet de sandwichs. À son signal, Simon cria au policier qu'il venait de voir Tullock. Le policier accourut à la fenêtre, Agatha fila aux toilettes et ferma la porte. Plus tard, Simon entra se brosser les dents.
Notre plan s'est peut-être retourné contre nous. Tout ce qui s'est passé, c'est que l'hôpital a grouillé de flics pendant la majeure partie de la soirée.
Il y a quatre policiers qui font le gars à l'entrée.
Bon, maintenant, faut que je fasse pipi, dit Simon.
Je me retourne et je ne regarde pas, promis.
Et vous, parlez moins fort.
La nuit s'éternisait. Agatha buvait café sur café, s'exhortant à rester éveillée. De temps à autre, elle entendait des bruits de pas dans le couloir, alors elle se figeait et attendait. Elle mourait d'envie de sortir de la chambre pour vérifier si le policier était toujours sur le qui-vive.
Il aurait dû y en avoir deux, se disait-elle.
Et s'il avait envie d'aller pisser? Son cœur se serra. Dans ce cas, la chose la plus logique serait d'utiliser les toilettes de Simon. Ses paupières commençaient à se fermer lorsqu'elle entendit des voix dans le couloir. Elle entr'ouvrit la porte de la salle de bain.
« J'ai cru que t'arriverais jamais », fit une voix qu'elle identifia comme celle du policier de garde. « Je suis crevée, je ne te reconnais pas, t'es pas du commissariat ?»«
Je suis de Worcester », fit une autre voix. « On nous fait venir de partout. »
Agatha frissonna. N'y avait-il pas, dans cette seconde voix, une trace d'accent écossais ? Simon dormait à poing fermé. Comment pouvait-il dormir dans ces circonstances ? Se demanda-t-elle furieuse. Elle laissa la porte à peine entrebâillée. Un homme, en uniforme de la police, approchait avec précaution du lit où Simon était étendu. C'est alors qu'Agatha, avec horreur, vit quelque chose luire dans la main de l'intrus. Une seringue. Elle s'empara d'un bassin en porcelaine, approcha de lui à pas de loup par derrière. Au moment où il relevait doucement la manche de la chemise de nuit d'hôpital de Simon, elle lui fracassa le bassin sur la nuque. Simon se réveilla en hurlant. Agatha souleva l'homme qui avait perdu conscience et le retourna. Tullock ! Des bruits de pas précipités résonnèrent dans le couloir et la pièce se remplit brusquement de policiers.
« C'est Tullock !» dit Agatha. « J'espère que je ne l'ai pas tué !»
Tullock poussa un grognement et tenta de s'asseoir. On le menotta à un chariot avant de l'emmener pour le soigner. Il apparut que le policier qui était parti, pensant que son tour de garde était terminé, avait dit à ses collègues postés à l'entrée de l'hôpital qu'il avait été relevé par un homme de Worcester. On lui avait répondu qu'il était censé être remplacé par un agent de Mercer, et ils avaient tous foncé jusqu'à la chambre de Simon, où ils étaient arrivés à temps pour trouver Agatha avec un bassin dans les mains et Tullock étendu sur le sol.